choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie.
Alors, gloire à Dieu. On était arrivé à Josué 3. Donc, le peuple d'Israël va traverser le Jourdain et le Seigneur a arrêté les eaux de sorte qu'ils sont en train de traverser à pied sec comme l'épisode de la mer Rouge où la mer s'était séparée en deux. Et le Seigneur fait la même chose. Nous allons juste relire quand même, puisque ça fait quand même deux semaines qu'on n'a pas fait. Donc, Josué 3, à partir du chapitre 1er. Voilà, tout le chapitre 3. Voilà.
La nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qui chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain.
Voilà, donc gloire à Dieu. Et nous avions dit la dernière fois comment les officiers eux-mêmes qui étaient des stratèges militaires avaient conseillé de suivre les prêtres. Et c'était pour nous rappeler que quels que soient nos talents, dans un quelconque domaine, mais du moment que c'est pour Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Donc même si on dit, frère, tu es responsable du ménage, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Souvenons-nous, lorsqu'on a choisi les diacres dans Actes des Apôtres, on les a choisis remplis du Saint-Esprit. Donc, c'était pourquoi ? C'était pour distribuer la nourriture. Mais il était question de trouver des gens, hein, cette personne remplie du Saint-Esprit et ayant un bon témoignage. Finalement, les mêmes qualités qu'on demande aux prédicateurs, être rempli du Saint-Esprit, avoir un bon témoignage, c'est la même chose qu'on demandait pour des gens qui devaient distribuer la nourriture. Donc, on voit que tout ce qu'on peut faire pour Dieu, ça demande les mêmes conditions. Que ce soit, que tu sois un chauffeur des enfants de Dieu, que tu sois, quelqu'un qui s'occupe de la technique, de vidéo, tout ça, c'est les mêmes conditions. Être rempli du Saint-Esprit, faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose réservé aux gens qui prêchent. Donc, l'armée du Seigneur doit être dirigée par Dieu à tous les niveaux. C'est important. Et donc, nous passons. Donc là, Dieu fait le miracle, puisque tout le monde est obéissant au système du Seigneur. Dieu fait le miracle. Il passe le Jourdain à pied sec. Nous passons au chapitre 4 maintenant.
Chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain. » Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Alliance et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu.
Amen. Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Donc le Seigneur demande à ce qu'on fasse des monuments de pierre, un monument dans le Jourdain même et un monument là où ils allaient passer la nuit. On a appelé ce lieu Gilgal. Et la dernière fois, on avait expliqué que Gilgal, ce n'était pas un lieu fixe. C'était plusieurs lieux en Israël où on avait érigé des monuments de pierre pour montrer que la terre avait été conquise. Donc, parce qu'au début, quand les gens lisaient la Bible, il y avait quand même une perturbation de voir Gilgal dit dans plusieurs endroits, mais qui parfois, géographiquement, quand on était sur le terrain, ça faisait trop de kilomètres. Parfois, on avait mis même des distances. Les gens disaient, mais non, on ne peut pas faire autant de kilomètres à pied, par exemple, en 2 jours. Et il y avait un problème. Les gens qui nous ont accompagnés au dernier voyage ont entendu l'explication par rapport à cela. On a visité un lieu au dernier voyage en Israël qui s'appelait Gilgal. Et l'explication, et on a vu le monument de pierre, un monument en fonction, en figure de pied, et puis un monument élevé à l'intérieur. Un monument en pierre, et l'explication c'était que c'est comme si à chaque fois qu'il y a eu un événement important où Dieu a marqué sa victoire, ils ont dressé ce monument-là et ils ont appelé l'endroit Gilgal. Donc c'est pas seulement un seul endroit, c'est plusieurs endroits qu'on retrouve ce genre de monument. Et le Seigneur donne la raison afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Ça c'est la première raison. Quand il leur a fait traverser cela, ils ont fait ce monument-là, il fallait que les gens se souviennent de la force de Dieu. Mais plus encore, c'était qui? C'était eux-mêmes. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu, je vous fais traverser le Jourdain et je vous laisse un souvenir. Je veux que vous gardiez le souvenir de ma puissance. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie de puissance visible à tout moment, comme on aurait pu le penser parce qu'on s'est dit que notre Dieu est tout puissant. Forcément, on devrait être fort à tout moment, en bonne santé, réussir tout ce qu'on essaye de faire. Donc on a quand même, c'est lié à notre rationalité. On s'est dit, Dieu est mon Père, il est tout puissant. Forcément, tout le reste doit être puissant aussi. Mais c'est pas tellement ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est écrit dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Et donc s'il y avait tout le temps ce qu'on est en train de penser là, la foi ne pourrait pas s'exercer. Si on devait réussir tout, être tout le temps fort, et quand tu veux par exemple prêcher, tu as déjà bien tout, la foi ne s'exercera plus. Et on mourra. Et on rejoindrait notre ancêtre Adam dans sa chute. Le Seigneur a changé de système, le juste doit vivre par la foi. Et ce qui fait que, qu'est-ce qui peut nous maintenir dans cette sorte de paradoxe? C'est le souvenir des exploits de Dieu. C'est sa parole qui nous montre ce qu'il a fait autrefois, c'est ce dont il est capable. Et puisqu'on fait confiance à sa parole, ça nous fortifie, malgré la situation qui peut être difficile. On arrive à tenir, on se dit, mon Dieu est vivant, il a fait ceci dans le passé, il a fait cela. Le souvenir, c'est très important, bien aimé, même pour nous-mêmes dans notre vie, de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, c'est très important. Il y a des moments difficiles et puis on se dit, mais tiens, j'avais connu d'autres moments autrefois encore plus difficiles, mais Dieu m'avait aidé, il est toujours là. Et Dieu tient à ce qui est toujours ce souvenir-là, en quelque sorte sa parole. Et parce que le souvenir n'est pas une réalité qu'on tient, mais c'est une réalité qui touche le cœur, qui nous fortifie de l'intérieur. C'est ce que Dieu veut qu'on reçoive comme force, la force qui vient de l'intérieur. Alors qu'une action puissante nous fortifie de l'extérieur. Un miracle, là, tout de suite, va nous fortifier de l'extérieur. On se sent fort. Mais le souvenir nous fortifie de l'intérieur. C'est-à-dire, on peut faire face à une réalité négative négative parce qu'on est fort de l'intérieur. On n'a pas forcément besoin d'être délivré. La situation peut rester négative, mais nous, on est bien, on est fort. C'est cette force-là qui vient de l'intérieur par la foi que Dieu veut que nous puissions acquérir. Ça, nous, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, mais c'est la marche, c'est le système de Dieu. Oui, Mylène ?
Oui. Oui, par rapport... Ça marche pas. Par rapport aux souvenirs, en fait, c'est vrai que ça nous fortifie, etc. Mais je me rappelle que des fois, tu exprimes par rapport à certains chrétiens, vieux chrétiens, qui sont toujours dans le passé, dans ce que Dieu a fait, dans le souvenir, tout ça. Et en fait, bon, tu expliques qu'ils ne vivent plus de choses nouvelles. Donc, ils sont toujours dans le passé, toujours dans le souvenir. Toujours.
Non, eux, ils sont... La différence, c'est ces vieux chrétiens-là, ils sont restés là-bas. Ils ne font rien maintenant et ils restent dans le passé. Alors que là, il s'agit des gens qui peuvent connaître un temps difficile, un temps de désert, mais que le souvenir permet de leur redonner la force pour continuer la marche. Alors que les vieux chrétiens là sont tout le temps en train de dire ce que Jésus lui-même dit. Quand il y a le vin nouveau, les gens disent que le vieux c'est le bon. Le vieux vin c'est le bon. C'est des gens qui veulent pas accepter la marche de Dieu aujourd'hui. Ils veulent rester, c'est comme si quelqu'un se souvient à l'époque où il priait pour quelqu'un, la personne était guérie, il faisait ceci, ça marchait. Et puis quand ça ne marche pas, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de poser la question à Dieu, pourquoi ça ne marche pas, au lieu de fonctionner avec Dieu comme qu'il veut aujourd'hui, il se mure dans son souvenir, il ne parle que de souvenirs et il reste dedans. Et il n'avance pas avec Dieu tel que Dieu le veut aujourd'hui. Voilà, c'est ça ce qui n'est pas bon. Le souvenir doit nous fortifier et nous amener à avancer et non nous bloquer dans le passé. Voilà, nous continuons. Et voilà, et c'est très important, lorsqu'on est en difficulté, de relire la parole de Dieu et de penser aux bienfaits du Seigneur, aux exploits du Seigneur qui sont écrits dans sa parole. Nous continuons avec le chapitre 5.
Chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël.
Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Les gens perdent courage. Ils sont effrayés. Ils ont la crainte du Dieu d'Israël. Mais est-ce qu'ils vont pour autant faire profil bas? Pas du tout. C'est ce qu'on reproche aux gens de Jéricho. Parce qu'ils témoignent. Donc, Rahab témoigne que ces gens-là ont reçu la crainte de Dieu. Ils ont compris que Dieu était plus fort. Mais ils ont refusé quand même de s'humilier, de se livrer à ce Dieu-là comme Rahab. Et c'est la réalité de beaucoup dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences qui montrent quand même que Dieu est le plus fort. Mais puisque, comme on vient de le dire, ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où Dieu semble absent. Mais on a eu quand même un message à un moment donné très clair de sa puissance et de sa force. Et on ne veut pas en tenir compte. On entre dans la résistance et ça finira mal. Donc nous continuons, verset 2.
En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route. Après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour.
Voilà. Il nous est dit que Josué circoncit tout le peuple, tous les gens qui n'étaient pas encore circoncis. Mais pourquoi en ce moment ? Ça nous rappelle quel épisode ? Ça nous rappelle l'épisode de Moïse lui-même qui doit aller libérer son peuple et Dieu cherche à le tuer la nuit. Pourquoi ? Parce que ses enfants n'étaient pas circoncis. Donc, ça nous montre quoi ? Dieu ne peut pas nous libérer. Parce que souvent, notre libération, c'est quoi ? C'est le jugement des autres. Parce qu'en général, quand on n'est pas libéré, on est captif de quelqu'un. On est esclave de quelqu'un d'autre. On est sous la domination de quelqu'un d'autre. Donc, quand Dieu nous libère, il frappe les gens. Il juge les autres. Mais Dieu ne peut pas se permettre de frapper les gens alors que nous-mêmes, on a le péché. Nous-mêmes, on a un problème. Nous-mêmes, on n'a pas une alliance claire et nette avec lui. C'est ça le cas ici. Donc, on est obligé nous-mêmes d'être en ordre. Donc, Moïse devait être en ordre pour éviter que Dieu le frappe avec tout le monde. De la même manière que les enfants d'Israël devaient tuer l'agneau pour passer sortir de l'Égypte le jour de la Pâque. Pourquoi ? Parce que Dieu s'en prenait à tous les premiers-nés. Donc même les premiers-nés des Israélites avaient péché aussi. Ils devaient mourir. Mais pour qu'ils ne meurent pas, c'est l'agneau qui prenait sur lui. Donc Dieu est juste. Il ne peut pas frapper des personnes et nous laisser indemnes, soi-disant parce qu'on prétendument parce qu'on est son peuple. Non ! Il va aussi nous frapper. Pour qu'il ne nous frappe pas, nous devons être sous son alliance. Alliance, maintenant, dans notre cas aujourd'hui, par le sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu ne peut pas nous frapper. Et donc, il va frapper nos ennemis, tous ceux qui nous maintiennent dans la captivité. Et donc là, il s'apprête à faire quoi ? À conquérir Jéricho. Donc Dieu va frapper Jéricho, à conquérir d'autres terres. C'est une étape où ils vont conquérir, vraiment se fixer dans la terre promise. Donc Dieu va frapper des gens, il va juger des gens. Mais alors qu'eux-mêmes ne sont pas clairement dans l'alliance, la circoncision c'était l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu. Donc ils ne sont pas clairement dans l'alliance. Alors Dieu dit non, vous-même vous devez être clairement dans l'alliance. C'est pourquoi c'est important que nous-mêmes nous soyons au clair avec Dieu. Si on veut certaines délivrances, on veut que Dieu agisse dans certains domaines où on est en concurrence avec les païens, il faut que nous-mêmes on soit en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur est juste, il ne va pas faire de favoritisme juste parce qu'on se dit qu'on est chrétien. Il faut que nous on soit en alliance claire et nette avec lui. Et la circoncision, c'est le fait qu'on accepte d'être membre du peuple de Dieu. Clairement, on n'en a pas honte. C'est une trace physique qui nous fait accepter. Tu te dis, comme Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Tu dis, oui, je suis un enfant de Dieu, j'en ai pas honte. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Lorsque il faut se manifester comme étant un enfant de Dieu, on n'a pas peur. On accepte la honte de tout ce que les gens vont dire, mais nous, on dit ce qu'on pense. Dernièrement, on nous a proposé, parce qu'on devait chanter, faire un concert devant le comité d'une entreprise d'assurance. Et le monsieur était venu voir le dimanche notre concert ici. Il est venu juste au moment où on faisait la mise au point. On chantait quoi Nous voulons voir Jésus élevé. Non, aujourd'hui nous dirons tous, Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il n'est même pas resté 5 minutes, il est parti et il a écrit à Mylène en disant, si vous venez chanter ici, vous devez chanter qu'en anglais et les chants les plus connus. On m'a envoyé la lettre, moi aussi j'ai écrit à la personne, je lui ai dit, le gospel, ça veut dire, ce n'est pas qu'un style musical, c'est un message. Nous n'acceptons pas de dénaturer le mot gospel et le cantonner à un style musical, c'est un message. Nous ne pouvons pas faire ce qu'il nous dit exactement. Nous, nous voulons chanter avec notre cœur, notre âme. Et donc, je lui proposais 80% en anglais et 20% en français. Et au moins, on est à peu près match nul. Et ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, nous, on ne peut pas céder, ne pas dire un message clair et net. Je lui ai dit, nous, on ne peut pas chanter sans âme. On doit chanter avec notre âme. On doit dire les choses clairement. Et donc, il nous faut au moins 20% de chant en français pour qu'on dise ce qu'on pense. Voilà. Ils n'ont pas donné suite. Voilà. Nous aussi, on reste comme ça. Donc, on ne va pas avoir honte d'être ce qu'on est. Voilà. Donc, je crois qu'on a encore une preuve qui va venir dans ce sens-là. On nous demande de chanter à Saint-Julien. Ça commence à sentir la même odeur de « attention, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela ». Il dit « bon, là, nous, on va faire les choses telles qu'on doit faire et on n'a pas honte d'être enfant de Dieu ». C'est ça aussi la circoncision. Donc, c'est comme si les enfants d'Israël se cachaient. Ils avaient encore l'esprit d'Égypte. Ils se maintenaient dans l'esprit d'Égypte. C'est pourquoi Dieu dit « j'ai enlevé la honte de l'Égypte, l'opprobre d'Égypte. J'ai enlevé, ils avaient encore l'esprit d'Égypte. Là, vous êtes mon peuple. Il faut vous circoncire. C'est ça, quoi. Et pour nous aussi, la circoncision, c'est vivre un enfant de Dieu. Avant, tu étais connu pour être un homme impulsif, qui passe rapidement aux mains, en enfant de Dieu, tu deviens un agneau. Tu acceptes, c'est ça la circoncision, tu fais mourir la chair. Tu te dis pas, ah s'il me connaissait avant, non. Tu acceptes d'être différent. Avant tu étais connu comme un grand sapeur. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu acceptes d'être différent. C'est ça la circoncision. Tu acceptes d'être différent. Tu acceptes d'être comme les enfants de Dieu. Voilà. Tu acceptes que ton passé meurt. C'est ça la circoncision. À un moment donné, il faut faire ce choix-là. Parce qu'on voit des chrétiens qui traînent toujours des anciens trucs du passé. Voilà. Voulant garder une certaine personnalité. Il y en a qui disent, moi j'ai toujours été comme ça, mais oui, mais un enfant de Dieu est devenu une nouvelle création. C'est ça la circoncision. On accepte qu'on soit différent. C'est important. Sinon, on ne peut pas vraiment entrer en terre promise. Oui ?
Oui, pasteur, tu as déjà répondu à ma question. En fait, la circoncision aujourd'hui, ce n'est plus chirurgical. Donc, c'est par rapport au sang de Jésus. Donc, ça
change. Aujourd'hui, la circoncision, c'est la nouvelle naissance. Tu acceptes que ton passé, c'est fini. Maintenant, tu deviens une nouvelle personne, ouais. Le peuple de Dieu, quoi, à l'image de Christ. Okay. Voilà. Voilà, nous nous sommes arrêtés à...
Verset 10.
Voilà, donc nous lisons maintenant le 11 et 12.
Une question.
Verset 9.
Oui.
Oui, pasteur, excuse-moi, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi le peuple n'a pas été circoncis avant ? Est-ce qu'il faut le vouloir ? Ce n'est pas imposé ? Le sens que c'est Moïse et Josué quand même qui les enseignaient, enfin qui les amenaient dans la voie de Dieu, pourquoi ils n'ont pas posé tout de suite le fondement de la circoncision ?
Je crois qu'ils étaient dans une errance complète, errance physique dans le désert, et même les idées n'étaient plus... fixé vraiment dans le Seigneur comme il faut, même si Moïse était là. Il y avait une certaine, comment dire, comme aujourd'hui Dieu dit qu'il a mis un voile sur le peuple d'Israël. Il y avait comme un voile. Et là, maintenant qu'on passe à une autre étape, c'est comme si Dieu se lève à nouveau sur son peuple. Alors son peuple doit refaire cette alliance. Je vous ai dit qu'avec le Seigneur, le peuple a fait à plusieurs fois des alliances. Et nous sommes appelés, il n'y a pas de honte à voir, même si tu es un vieux chrétien, de dire, vraiment, j'ai tapé à côté pendant 5 ans, hein, donc là, je veux vraiment faire une alliance avec le Seigneur et faire les choses bien. Donc il n'y a pas de honte à cela. Donc c'est ce qui se passe là. On va passer à une autre étape. Ils font alliance avec le Seigneur.
Oui, je suis d'accord, mais pourquoi ils n'ont pas été enseignés de cette façon, puisque Josué, le travail de Moïse et de Josué, c'était les amener à Dieu. Pourquoi d'entrée de jeu, C'était la repentance, c'était servir Dieu, c'était adorer Dieu, mais il n'y avait pas le fait de se donner pleinement par la circoncision.
Non, moi je pense que du moment qu'ils avaient refusé la terre promise, il y a eu comme un voile sur eux, il y a eu comme une parenthèse avec Dieu. Dieu n'a plus voulu d'eux, donc il a dit, bon, je ferai les choses avec la nouvelle génération. C'est ce qui se passe là. Voilà. Ok, nous continuons, 11 à 12.
Je crois que ça doit être le verset 10. Hein, si je me
trompe. Ah d'accord.
Les enfants d'Israël, verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là.
Amen. Voilà à quel moment la manne s'arrête. La manne s'arrête quand ils mangent les productions du pays. C'est là que la manne s'arrête. Et ça montre qu'il y a des temps avec le Seigneur. Il y a des temps où le Seigneur va nous faire vivre de la manne. C'est-à-dire quelque chose de miraculeux tout le temps. Et puis il y a des temps où maintenant nous allons vivre de ce qui vient de la terre, de ce qui est humain directement, même si on sait que derrière tout ça, il y a Dieu, mais le côté miraculeux s'arrête pour faire place à un côté naturel, même si on sait que quand même il y a Dieu derrière tout cela. La vie chrétienne n'est pas, monotone. Donc ça, il peut y avoir des temps de manne et il y a des temps aussi de naturel. Nous devons accepter comment Dieu nous conduit. Donc c'est tout. Donc là maintenant, c'était avec la nourriture normale. Ils ont pris la nourriture normale. La manne s'est arrêtée. Voilà. Et voilà. Et il y aura des moments où ça sera quelque chose de spirituel, quelque chose de direct venant de Dieu, mais il y aura des moments où ça sera quelque chose d'indirectement venant de Dieu. Acceptons des humains aussi, des choses, parce que ne cherchons pas forcément à tout prix que ce soit Dieu directement qui nous le donne par miracle. Ça peut venir aussi des humains, c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Maintenant, ils sont arrivés en terre promise, ils ont commencé à manger les produits du pays. Versets 13 à 15 ans. J'aime beaucoup ce passage-là du 13 à 15. C'est depuis longtemps, à chaque fois que j'arrive là, ça me fait quelque chose.
Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi.
Voilà. Donc, nous sommes la veille de prendre Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Comme Josué était près de Jéricho, il lève les yeux et regarde. Voici un homme se tient debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué va vers lui. Il n'a pas peur. C'est pour dire que Josué aussi avait l'autorité de Dieu. Donc il voit un homme un peu extraordinaire avec une épée. Josué s'avance. Il n'a pas peur. Il dit, mais Josué le pose, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Vous voyez que quand on a l'autorité divine, on n'a pas peur. Hein. Il y a des situations où tout le monde va avoir peur, mais non, on n'a pas peur. Par exemple, quelqu'un est en train de crier, venir avec un couteau. C'est, pour toi, en toi, c'est comme s'il n'a rien du tout, parce qu'il y a l'autorité de Dieu sur toi. Et tu peux lui donner un ordre et ça s'arrête. C'est comme ça l'autorité de Dieu. Josué s'avance vers cet homme-là. pour lui dire « Qui es-tu ? Tu es de notre ou bien de l'autre camp ?» Le monsieur répondit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. C'est mon moment. Donc nous sommes à la veille d'une guerre très importante. Dieu, c'est un exemple qui nous montre que ce que Hébreux 1 dit, que les anges sont avec nous dans le service pour Dieu. Et à chaque fois qu'il y a des événements importants, d'ailleurs à tout moment, les anges sont là. Mais Dieu va permettre qu'à un certain moment, on les voit. Et Josué va voir l'ange qui lui dit, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Ça nous rappelle qui? Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça nous rappelle quelle scène? Ça nous rappelle la même scène avec Moïse. Mais Moïse, c'était quoi? Le buisson qui brûlait sans se consumer. Et il entend la voix qui sort du buisson. Mais Josué, c'est quoi? C'est un chef d'armée. C'est dû aussi au fait que Josué était beaucoup plus... Il n'était pas seulement... berger, il était quand même aussi de formation militaire. Et lui, il voit le chef d'armée, Moïse a vu le buisson ardent, c'est vraiment spirituel. Mais cependant, c'est la même personne qu'il voit sous des formes différentes. L'un voit comme un buisson ardent, Josué voit le chef d'armée de l'Éternel. Nous savons que le chef de l'armée, c'est lui-même le Seigneur Jésus, puisque Josué se prosterne et l'adore et il ne fait pas de problème. Il ne fait pas de problème. Et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Ben, enlève tes souliers parce que ce lieu est saint. Qu'est-ce que ça nous montre, cela? Ça nous montre que même le serviteur de Dieu, pasteur je ne sais qui, n'est rien du tout devant Dieu, a besoin de reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu est saint. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on te donne l'autorité que tu deviens quelqu'un de comparable à Dieu, pas du tout. Enlève tes souliers parce que tu es devant Dieu. Voilà. Et n'oublions pas cela. Ce n'est pas parce que Dieu nous donne une responsabilité, un poste d'autorité, qu'on devient son égal. On n'est pas son égal. Dieu dit, enlève tes souliers. Nous devons nous sanctifier. Même si on est apôtre, prophète, je ne sais pas quoi, tous nous sommes appelés à nous humilier. Et nous connaîtrons le temps d'humiliation. Vous imaginez quelqu'un comme Jean-Baptiste a été brisé jusqu'au bout, au point qu'en prison, il envoie des gens dire « Mais au Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi ?» On voit qu'il était déstabilisé. Pourtant, lui, il savait que c'était le Seigneur. Il avait baptisé, il avait présenté aux autres. Mais il a été éprouvé. Ça montre quand même, Jean-Baptiste était un humain. Donc, Dieu fera toujours la différence entre nous et lui. Parfois, quelque chose de bête, enfin, un accident bête va survenir en conduisant. Mais tu te dis, mais il voulait quoi? Il voulait qu'on sache que lui, il est Dieu, toi, tu n'es pas Dieu. C'est tout simple. Hein? C'est tout simple. Vous savez, un verset dans la Bible, dans Luc, je crois, c'est écrit, « Tout ce qui est élevé est en abomination devant Dieu. » Tout ce qui est élevé. Et quand on commence à s'élever, Dieu va permettre quelque chose qui va te remettre à terre, même si l'élévation vient de lui. C'est Dieu lui-même qui élève Josué. D'ailleurs, on va lire ça, c'est écrit que c'est lui. Mais, il lui dit, mais je t'élève, mais tu es petit à mes yeux. Attention, enlève tes chaussures. Et on va vivre un truc, on dit, mais il veut m'apprendre quoi? Je lis la Bible. Je suis fidèle, j'écoute les enseignements. Il veut m'apprendre quoi? Il veut t'apprendre que c'est lui qui est Dieu. Lui ne connaît pas d'accident de route. Lui ne connaît pas de klaxons. Vous savez, il y a des gens qui nous klaxonnent bêtement alors que c'est eux qui sont dans l'erreur. Eh bien, lui, il est au-dessus. Et c'est ce que Richard Rembrandt disait. Alors que Richard Rembrandt, vous savez, j'ai souvent parlé de lui. Il faisait un travail extraordinaire amener l'évangile dans les pays où régnait la persécution, où c'était interdit d'amener la Bible. Ils prenaient des risques. Et on connaît la vie de Richard Rembrandt. Richard Rembrandt a donné sa vie pour l'évangile, emprisonné à plusieurs reprises en Roumanie. Mais malgré tout, vous savez, il y a des gens qui vont toujours nous critiquer. Parce qu'il y a toujours des orthodoxes, des gens qui vont considérer que, ah oui, mais il faut obéir aux autorités, c'est interdit d'amener la Bible en tel pays, vous vous faites entrer sans contrebande. C'est... Il y a toujours des gens qui voudraient appliquer la loi seulement pour nous, quoi. Donc, quand on veut sauver, c'est comme quand Jésus guérissait le jour du sabbat. Au moment où on veut sauver, eux, c'est là qu'ils veulent appliquer la loi pour qu'on ne sauve pas. Et Richard Rembrandt était critiqué. Ah, comment il se permet d'envoyer des Bibles dans tel pays alors que c'est interdit. Maintenant, la Bible sauve. Entre Dieu et les hommes, on obéit à qui ? On obéit à Dieu. Bon, donc il était souvent critiqué pour ses méthodes de cascadeur par rapport à l'annonce de l'évangile. Il disait, dans tout ça, je bénis le Seigneur. Au moins, il y a une différence entre Richard Rembrandt et Dieu. À Dieu seul la gloire. On peut critiquer Richard Rembrandt, mais Dieu seul est élevé. Voilà, c'est cela. Dieu va permettre des choses. Tu te dis, mais ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'il y ait une différence entre toi et lui. Parce que s'il ne fait qu'agir favorablement, positivement, tout va bien. Tu finis par croire que c'est toi qui es Dieu. Donc, il nous ramènera toujours à notre place. Il dit, tu enlèves les chaussures, malgré le fait que c'est quand même Josué. Et l'apôtre Paul le dit, après avoir enseigné aux autres, moi-même, j'essaie d'appliquer. Vous savez, frère, il y a des moments où 50% ou 60% de ce qu'on peut dire en prêchant, ça vient clairement que quand tu prêches. Ça veut dire que tu n'avais pas ça avant. C'est comme si on t'a... C'est pas comme si. On t'a utilisé. Et donc, quand tu finis aussi, c'est fini. Hein? Donc, toi-même, tu dois te transformer en auditeur. Parce que si tu oublies ça, tu as prêché, tu te dis, c'est comme si toi tu savais. Tu savais pas parce que beaucoup de choses sont venues là. Ou même c'est venu peut-être deux jours avant, mais c'est pas suffisant pour digérer les choses. Deux jours avant ou cinq jours avant. Mais les gens qui t'écoutent, ils pensent que tu es bâti au niveau de ce que tu prêches. Ah non, toi aussi tu as besoin de ça. Donc après la prédication, tu as besoin toi aussi de te ressouvenir de ce que tu as dit pour te maintenir un bon chrétien. Parce que ces choses-là sont venues sans que tu les aies digérées complètement. Tu les as plus ou moins mangées, mais voilà, ça n'a pas encore pris corps comme il faut. Tu en as besoin. C'est très important. Donc que nous puissions rester à notre place d'humain. Dieu seul est Dieu. Voilà, c'est pas parce qu'il nous utilise qu'on n'a plus besoin de sanctification, qu'on n'a plus besoin d'être humilié, qu'on n'a plus besoin de nous humilier aussi. Il faut faire attention. Restons à notre place, que Dieu soit à sa place. Chapitre 6, conquête de Jéricho.
Chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passe devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris !» Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, des grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. »
Voilà la prise de Jéricho. On a fait tout un séminaire intitulé « Ne crains pas, petit troupeau, votre père a décidé, car votre père a décidé de vous donner le royaume. » Et une des questions, c'était « Mais comment saisir le royaume ?» Mais comment saisir ce royaume ? C'est par l'obéissance à Dieu. Vous savez, on vous dit, on vous donne Jéricho, on vous donne la terre promise. Allez prendre. Mais vous vous dites, mais comment faire? C'est une tâche trop immense. C'est comme l'histoire du royaume. Mais comment? Comment? On a l'impression que les francs-maçons occupent tous les territoires, tous les terrains. Que faire? Mais le Seigneur dit, je vous donne. Mais on lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, qu'est-ce qu'il dit? eh bien, vous allez faire pendant 7 jours le tour de la ville. Et le dernier jour, 7 fois le tour de la ville. Et il y avait un ordre, hein, l'avant-garde, les prêtres avec les trompettes, les prêtres avec l'arche ensuite, et puis l'arrière-garde, les autres soldats qui viennent, et je crois le peuple après tout ça. Et Josué dit au peuple, vous ne dites rien, vous ne sortez aucun cri, silencieux, vous laissez les trompettes sonner. Donc premier jour, le peuple ne fait rien. Deuxième jour, jusqu'au 7e jour, vous crierez au moment du signal, et le signal quand il a été donné, le peuple a crié, les murailles se sont écroulées. Finalement, ils ont gagné la bataille. Alors, on voit le contraste, le fossé entre l'instruction, prendre une telle ville avec une telle muraille, et les moyens qu'on vous donne. Juste faire le tour de la ville et sonner de la trompette. Les moyens sont trop faibles, hein, par rapport à la mission. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? L'obéissance. Quand on obéit à ces faibles instructions, ben on gagne. Mais nous, d'habitude, on dit mais les moyens sont trop faibles. Et on tarde à obéir, ou bien alors on s'invente d'autres instructions, on s'invente des méthodes en disant mais par rapport aux intentions de Dieu, il nous faut plutôt telle chose. C'est pourquoi, je veux dire le vrai peuple de Dieu, je ne parle pas de l'église, parce qu'il y a la fausse église visible qui peut sembler faire des exploits, mais nous savons bien qu'elle est dans le compromis. Mais il y a aussi quand même le vrai troupeau qui traîne. Pourquoi le vrai troupeau traîne? Parce qu'on a du mal à obéir aux simples instructions du Seigneur. Ça nous semble avoir peu d'effet. Vous savez, aujourd'hui, comment dire, je joue ce rôle-là de prêcher à gauche, à droite, sur Internet, ainsi de suite, et on pourrait dire qu'un certain nombre de personnes sont touchées. Mais moi-même, j'ai été touché comment ? C'était dans les camps bibliques au Maroc. Il y a des gens qui quittaient les États-Unis, qui quittaient la France, je ne sais pas, mais en tout cas qui venaient de l'étranger. Hein, ils avaient à cœur de s'occuper de nous, les étudiants chrétiens au Maroc, de nous amener dans un endroit 3 jours et discuter de la parole. Et quand on sortait de ces 3 jours-là, on était touché, on était transformé. Mais pas à 100%, on n'était pas à 100% encore pour le Seigneur. Mais tous ces instants-là, ces gens-là, peut-être, ils ne me connaissent plus. Ils ne se souviennent plus de tout ce qu'ils ont fait là. Mais aujourd'hui, ça a produit quelqu'un comme moi, qui vit pour le Seigneur, qui travaille pour le Seigneur. C'était des moyens qui paraissaient ridicules. Mais Dieu lui-même utilise des moyens ridicules pour faire des grandes choses. Aujourd'hui, vous voyez la différence entre ce qui se passe le dimanche et ce qui se passe le mardi. Le dimanche, on va voir beaucoup de gens, et le mardi, peu de gens. Mais en réalité, la vraie formation, c'est le mardi. Et donc, quelqu'un peut négliger, dire, bon, moi je veux là où on sent l'onction, on sent le truc le dimanche, là. La chorale est là, l'équipe de louange est là, bien en forme. Mais non, c'est obéir aux simples instructions du Seigneur. Le Seigneur peut te réveiller le matin pour prier, obéis seulement. Il peut t'amener à demander pardon à quelqu'un, obéis seulement. Aux simples instructions, ça nous donnera des grandes victoires. Nous, on pense que pour avoir des grandes victoires, il faut aussi des grandes instructions, de grands sacrifices. On est dans la logique rationnelle. Grand sacrifice pour grand résultat. Non, là, on leur a dit, vous tournez, c'est tout. L'obéissance a fait la différence. Bien-aimés, obéissons. Et il y en a maintenant qui obéissent, mais qui se détournent des grands projets du Seigneur. Ils se disent, j'obéis, mais pas forcément pour les grands projets, mais pour être seulement bien avec Dieu. C'est pas mal, mais nous ne devons pas négliger les grands projets du Seigneur. Le Seigneur dit quand même, allez faire de toutes les nations des disciples. Je ne peux pas juste obéir en me disant, ça me maintient dans une vérité, je suis saint, je peux dire comme l'apôtre Paul à la fin de ma vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Oui, mais le même Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc j'obéis pas seulement pour rester bien avec lui, j'obéis aussi pour entrer en terre promise, prendre Jéricho. Donc nous devons garder les deux. La clé, l'obéissance. Pour être en conformité avec Dieu, mais l'obéissance aussi pour vivre les promesses du Seigneur. On ne doit pas oublier les promesses du Seigneur parce que c'est aussi négliger le Seigneur. Il nous a fait des promesses. Il a dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. On ne peut pas dire, ben tiens, juste l'étude biblique mardi, ça va nous donner les nations. Oh, bon, je vais quand même y aller pour ma propre foi. Je vais y aller pour ma propre progression spirituelle. Parce que je ne vois pas en quoi l'étude biblique du mardi va nous donner les nations. Ce n'est pas bon cette attitude-là. Même si elle a de bons côtés, c'est-à-dire tu vises quand même la sainteté personnelle, tu vises quand même la croissance personnelle, mais tu ne dois pas oublier les grands projets du Seigneur. Et dissocier les petites instructions de ce grand projet. Tu te dis, quand le temps viendra d'aller peut-être au Parlement prêcher à, je ne sais pas qui est le président du Parlement aujourd'hui, ah oui, Castaner. Donc quand le temps viendra d'aller prêcher à Castaner, peut-être que Dieu va nous donner un système de prière spéciale pour aller... Non, le peu qu'on fait déjà là, c'est une préparation pour aller prêcher à Castaner. C'est une préparation. C'est les petites instructions, c'est un ensemble avec Dieu. Il dit, premier jour, vous ne faites rien. Deuxième jour, vous ne faites rien. Vous croyez que s'ils avaient fait quelque chose, même si le septième jour, ils avaient fait beaucoup de crier, rien n'allait se passer. Hein. Vous ne faites rien le premier jour. Ça paraît inutile. Donc, on marche seulement comme ça. Tourner une ville, en quoi ça sert? C'est l'ordre de Dieu. C'est tout. Parce que nous, on est toujours dans l'idée, à quoi ça sert? Avec Dieu, il n'y a pas d'à quoi ça sert. Lui, il sait à quoi ça sert. Toi, tu obéis. C'est tout. Et tu verras sa gloire. C'est comme ça. Deuxième jour, vous ne faites rien. On se dit, mais comment on peut rien faire? Et parfois, les gens qui sont dans la muraille vous injurient. Zéro là-bas! Vous dites, oh, on a envie de répondre. On te dit, calme-toi. Tu ne dis rien du tout. Septième jour, on leur dit, vous attendez le signal. C'est au signal que vous allez crier. C'est comme ça avec Dieu. Premier jour, deuxième jour, on se sent vraiment inutile. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéis, obéis. Et ne dissocie pas les faibles instructions des grands exploits à venir. Ne dissocie pas. Ne dissocie pas. Parce que la personne, souviens-toi de ta conversion, peut-être c'est dû à une invitation. L'invitation, c'était le premier pas. Une invitation, premier pas. Si quelqu'un ne t'avait pas invité, oh, ça semble rien du tout une invitation. Mais c'était le premier pas. C'est l'obéissance à toutes les instructions qui nous amène au bout. C'est pourquoi ne négligeons pas les faibles instructions et ne les dissocions pas des grands exploits, cherchant forcément une grande instruction pour un grand exploit. Non. Dieu est avec nous dans les petites choses pour préparer les grandes. Cet exemple-là de Jéricho est un grand témoignage de cela. Que cela nous serve à obéir à Dieu dans les petites choses et sans les dissocier des grandes choses. Parce que ça, vous savez, si on les dissocie des grandes choses, on finira par désobéir. Mais quand on les garde toujours liés aux grandes choses, on reste vigilant. Je dois apprendre à bien parler à la maison, parce que mon ministère public dépend de cela. Mais quand tu dissocies ça, tu te dis, je veux parler à la maison juste pour être un bon chrétien, c'est bien, mais avec le temps, tu vas négliger. Il faut que tout soit lié, tu te dis, pour que je fasse bien mon ministère public, je dois être en accord avec la parole. Là où je travaille, je dois être en accord avec la parole. Là où je dors, voilà. Ça te permet d'être tout le temps en éveil. Mais si tu dissocies, au début tu vas dire c'est pour être un bon chrétien, je vais être correct. Mais à la longue, on se fatigue. Donc c'est bien de tout lier. Et les faibles instructions aux grands exploits, obéir, c'est le mot-clé, obéir à Dieu. Dieu a dit quelque chose, obéis. Et tu feras des exploits. Tout contribue au grand exploit à venir. Nous continuons. Après, on nous dit, oui, il y a un autre élément. On nous dit qu'ils ont tué tout dans la ville. Ils ont tué tous les êtres vivants dans la ville, les hommes, les femmes, ainsi de suite. Et on pourrait s'en offusquer en disant, mais c'est quand même dur, ainsi de suite. Mais bien aimé, il faut voir aussi le niveau d'orgueil humain, le niveau de résistance de ces gens-là face à Dieu. C'est des gens qui ont été jugés par Dieu. Donc Israël est utilisé aussi comme un instrument de jugement. Les gens résistent à Dieu. Il est écrit, tu as péché, tu mourras. Et eux, donc Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour atteindre sa prophétie. Et Israël a été utilisé à plusieurs reprises pour atteindre, pour accomplir la prophétie du Seigneur. Quelqu'un a péché, il mourra. Et bien Dieu, en ce moment-là, a utilisé Israël, comme il a utilisé aussi d'autres peuples pour tuer les enfants d'Israël, afin que cette même parole s'accomplisse. Donc, ne soyons pas, n'ayons pas de parti pris. Analysons la position des deux camps, le camp de Dieu et le camp des autres. Ces gens-là ont compris clairement que Dieu était le Dieu Tout-Puissant. Ils ont compris clairement que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ils l'ont compris, mais ils résistent. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il se retire. Mais que Dieu se retire, c'est un jugement qui vient. C'est ce qui se passe. Dieu dit, bon, le destin de ce peuple-là, je ne m'en occupe plus. Mais quand Dieu dit, il ne s'en occupe plus, c'est son jugement qui s'abat. C'est-à-dire que les humains sont en sursis, en réalité. Quand nous voyons les hommes, il y a un jugement que Dieu a prononcé dans Genèse qui est sur eux. On les voit comme ça. C'est la grâce de Dieu qui les laisse comme ça. Quand Dieu dit maintenant, c'est bon, je me retire, son jugement prononcé dans Genèse frappe. Et on est étonné, on dit que c'est dur, non. On connaît ce jugement-là. Qu'est-ce qui doit nous animer? La volonté de dire aux gens, échappez au jugement. Échappez au jugement. Jean-Baptiste disait, et même Jésus, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a un jugement qui est suspendu sur tout humain. C'est à nous de dire à chaque humain, échappe! Au lieu de prendre des positions philosophiques, avec comment Dieu peut tuer tout le monde. Mais oui, mais il y a le jugement qui est déjà prononcé. Et Dieu leur a donné l'occasion d'y échapper, puisque Rahab, voilà, Rahab a échappé au jugement. Parce que c'est humilié. Ça veut dire que tout le monde pouvait échapper au jugement. Mais ils n'ont pas voulu. Un point, c'est tout. Nous sommes appelés à prêcher, à évangéliser, non à entrer dans des débats philosophiques. Le jugement est là. Demandons à tout humain d'échapper au jugement. Voilà, donc finalement, Rahab arrive à être sauvée ainsi que sa famille parce qu'elle a été humble. Elle a reconnu le véritable Dieu. Et c'est écrit au verset 24, « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, comme Josué avait demandé, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. » Et Josué a maudit d'ailleurs carrément Jéricho à cause de leur attitude de résistance gratuite parce qu'ils avaient la révélation de la grandeur de Dieu, mais ils ont préféré résister gratuitement Donc Josué a maudit la ville de Jéricho et qui est resté dans la malédiction. Vous savez, quel est le monsieur qui... On se souvient d'un épisode avec Élisée, je crois, quand on dit... oui, c'est avec Élisée, l'eau est bonne. Non, non, le séjour est beau, mais l'eau est mauvaise. Bon, je sens que tout le monde ne s'en souvient pas, donc on ne va pas en parler. Élisée a essayé de contrer cette malédiction-là, mais on va en parler le jour où ça arrivera. Donc nous allons continuer au chapitre 7.
Chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens? Et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérakh, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor.
Voilà. Je crois que quand on arrive au lapida, on a mis le feu. Je crois que les âmes sensibles sont en train de s'émouvoir là. Mais c'est le jugement de Dieu. Vous savez que l'enfer, c'est pire que tout ça. C'est pire que tout cela, d'où on a besoin d'être formé, rempli du Saint-Esprit pour sortir les gens du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sera grave. On doit être sérieux en Christ pour sauver les gens du jugement du Seigneur. On ne doit pas prendre les choses à la légère puisqu'on est déjà sauvé. C'est du sérieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qu'on vient de lire. Mais avant de passer sur ça, je voudrais qu'on revienne sur le chapitre 6 quand Josué maudit la ville de Jéricho. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au verset 26, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Si quelqu'un prend ce risque-là, il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. En science, qu'on peut lire 1 Roi, donc 16, 34, qui nous parle de l'accomplissement de cette parole-là de Josué. C'est pour nous dire que le vrai serviteur de Dieu, quand il parle, il ne parle pas en l'air. Donc c'est vraiment des paroles du Seigneur. 1 Roi 16, 34.
1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun.
Voilà, donc quand ce monsieur-là a pris le courage de rebâtir Jéricho, son premier-né est mort et au moment des fondements, des fondations, et son dernier est mort au moment de mettre les portes. Donc c'est c'est un jugement que Dieu avait prononcé, ce monsieur-là. C'est pourquoi on dit « mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Est-ce qu'il savait qu'il y avait ce jugement ? On ne sait pas, mais s'il le savait, donc il a voulu résister à Dieu, eh bien il a subi. Mais s'il ne le savait pas, il faut savoir, il faut lire la parole, il faut connaître la parole. C'est cela. Nous revenons au péché d'Achan. Donc qu'est-ce qui se passe ? Josué avait dit que tout ce qui est or, tout ce qui ça devait aller dans le temple. Et le reste on détruit. Mais il y a un monsieur qui a vu un manteau de chinéar. Donc il a vu un manteau de luxe, il a dit, ah, mais ça, je ne veux pas louper ça. Donc, et il a pris. Et je crois que beaucoup de gens disent, Seigneur, je te donne tout. Mais il y a des choses, on a rayé un peu la voiture là. Ah, le type, il a oublié qu'il avait tout donné au Seigneur. Vous allez entendre un cri sortir du parking, vous allez croire que c'est... On lui a mis un couteau, mais non, c'est la voiture qui a été rayée par les enfants qui jouent. Dieu a beaucoup utilisé les enfants là pour nous perfectionner. Hein. Gloire à Dieu. Dieu utilise chacun à sa dimension. On raye la voiture, tu sors là, oh, mais tu te souviens, j'avais donné aussi la voiture à Dieu. Mais il y en a qui oublient qu'ils avaient donné, ils récupèrent en ce moment-là, quoi. On entend un cri du parking, on vient, mais c'était c'est pas une attaque terroriste, c'est la voiture qui a été rayée. Et c'est ça, donc le monsieur vient un manteau de Shinéar. Shinéar, ça veut dire Babylone, donc un manteau de qualité de Babylone. Il dit, ah, mais là, j'aime bien Josué, mais là, je garde ce manteau. Voilà. Et puis, autre chose, il a pris. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Premièrement, le péché d'un d'entre nous nous touche. Dans la vie chrétienne, on ne doit pas être égoïste. Dire, moi, je suis pur, je suis bien. Ah, ne t'en fais pas. Si le frère pêche, ça va freiner le travail de nous tous. Donc, on ne peut pas dire, ah ben, voilà, qu'il mène sa vie. Non, on doit prier pour ceux qu'on trouve qui ne sont pas, qui sont dans le péché. Tant qu'ils sont au milieu de nous, ils ne sont pas dans la perfection. On doit prier. On ne doit pas se dire, ah ben voilà, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Comme si. Non, peut-être que. Ça ne va pas empêcher Dieu de nous sauver, nous, tout seuls, mais ça va empêcher le travail que Dieu fait ensemble avec nous comme un corps. Attention, attention de négliger le péché de l'un d'entre nous en croyant que Dieu veut faire sans lui. Ah non, Dieu l'a placé avec nous, nous sommes liés. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, nous sommes un corps. Nous sommes liés, tu ne peux pas dire, ah ben c'est le doigt, moi je ne suis que l'œil. Ah mais oui, mais quand le doigt a mal, il y a la fièvre et puis toi, tout le monde va en pâtir. Donc ça nous appelle à nous intéresser les uns aux autres et à nous laisser utiliser par Dieu pour nous corriger les uns les autres. C'est ce que dit la parole. Si ton frère a péché, va le voir. Donc on ne peut pas dire, ah ben voilà, il est comme ça, ah moi je suis bien, je suis correct. Non, mais ça va freiner le travail d'ensemble. On est responsables les uns des autres. Sinon, ça touche le travail d'ensemble. Ne nous amusons pas avec cela. Regardez comment ils ont perdu la guerre contre un petit peuple. À cause d'une personne, la majorité est un ordre. Parce que nous, on est toujours dans une logique de rationalité. La majorité est bien, mais c'est bon. Ah non, ça c'est dans le monde. Avec Dieu, du moment qu'il nous a placés ensemble, si l'un d'entre nous ne va pas bien et que nous on laisse faire, nous tous on subit. C'est cela. Donc la majorité peut subir à cause d'une personne en Christ. Parce qu'en Christ, tout le monde est important aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas dans une logique 99 c'est plus important que 1. Dieu, il n'est pas comme ça. Il faut qu'on apprenne à le connaître. Vous vous souvenez de la brebis perdue, non? La parabole de la brebis perdue. On laisse 99, on va chercher une seule brebis. Donc, on comprend le système et la logique de Dieu. Dieu n'est pas dans une logique démocratique à dire, bon, la majorité est correcte, c'est bon. Ah non, lui veut que tout l'ensemble soit correct. Et que la majorité, bon, si elle est correcte, qu'elle prouve qu'elle est correcte en s'occupant de la minorité. Que les forts supportent les faibles. Quand maintenant les forts disent, mais nous on est forts, les faibles sont faibles, mais nous on va y aller comme ça. Ah non, il faut, oui, on va y aller, mais tout en nous occupant des faibles. Ne serait-ce que dans la prière, ne serait-ce que dans l'exhortation. On doit continuer à travailler. On ne peut pas baisser les bras et dire, moi je m'occupe de ma vie. Il y a un côté de cela, ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire qu'il y a un côté de cela? C'est-à-dire que je ne veux pas me freiner dans ma progression à cause de quelqu'un qui ne veut pas, qui traîne avec Dieu. Mais en même temps, je dois tout faire pour le relever, parce qu'on est liés. Voilà. Je laisse pas freiner à cause de lui, à cause de ta femme, à cause de ton mari, à cause de tes enfants ou à cause de tes parents. Tu te laisses pas freiner, mais tu dois quand même les relever aussi. Prier, exhorter, faire ce qu'on peut selon la conduite du Saint-Esprit, mais avoir à cœur qu'on est quand même, on est lié. C'est très important. Et on voit les conséquences. Deuxième problème, le raisonnement bien-aimé, le rationnel. Ils se sont dit quoi? Quand il a envoyé les gens explorer, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ils sont en petit, en nombre. On va envoyer que 3000 personnes. On n'a pas besoin d'envoyer tout le peuple pour ce petit nombre-là. Alors que quand ils ont conquis Jéricho, qui est-ce qui a donné les instructions? Dieu lui-même. vous allez faire ceci, vous allez tourner une fois, deux fois, machin, truc. Là, ils se disent, comme l'ennemi est petit, on n'a pas besoin de grandes stratégies, on n'a pas besoin de Dieu. On va faire... Ce n'est pas normal. Un chrétien doit associer Dieu à tout. Il doit l'associer même à ce qu'il peut faire. Comme j'ai l'habitude de dire, tu vas aller faire des courses. Tu as 15 000 euros dans ta poche pour faire les soldes. Tu pries quand même que Dieu te montre. Mais tu ne te satisfais pas, j'ai 15 000, je ne calcule pas la dépense. Donc, ça, c'est l'orgueil. Tu dis, Seigneur, guide-moi. Même si je suis millionnaire, j'ai besoin de faire les courses selon ta sagesse, que tu m'évites aussi les produits qui coûtent cher. La personne se dit quoi ? Je suis millionnaire, mais que j'achète cher ou pas, où est le mal ? J'ai l'argent qu'il faut, mais c'est l'argent de Dieu. Donc tu dois prier, même si tu es millionnaire, qu'il te fasse dépenser le moins possible. Qu'il te conduise, bref, qu'il te conduise. Voilà, je ne veux pas donner des techniques de solde, mais qu'il te conduise. Dans ça, même si ça paraît très humain, les soldes, mais que Dieu te conduise. Parce qu'il peut te dire, cette année, je ne veux pas que tu fasses les soldes. Mais il peut te le dire aussi. Et il a déjà dit à beaucoup de personnes parmi nous, moi j'ai déjà entendu des témoignages de ce genre-là, où les gens te disent, Dieu m'a dit cette année, je ne fais pas les soldes. Voilà. Même quand tu as appris que ça bouge du côté de Saint-Sever là-bas, tu restes à la maison. Parce que Dieu te l'a dit. C'est une réalité. Mais nous, on a tendance, quand c'est des petites choses, bon, on va faire ceci, on va faire cela. Surtout quand c'est des sympathisants chrétiens, on se dit, bon, il connaît plus ou moins la parole, on n'a pas besoin de prier pour lui parler, on n'a pas besoin. Vous n'avez pas vu que parfois, on a traîné beaucoup plus avec des gens qui viennent à l'église que des gens qui sont venus une fois, deux fois, ils sont touchés, ils se convertissent. Alors que certains viennent régulièrement et ne sont pas touchés. Mais ça montre que le raisonnement rationnel dans les choses de Dieu, ça ne tient pas. Ils se sont dit, ils sont peu nombreux, on peut les massacrer, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de la conduite du Seigneur. Allez, on y va, échec total. Et quelle frappe, quoi. Échec total à cause du fait de mettre le raisonnement humain dans les choses de Dieu, à cause de la négligence à chercher la conduite dans les choses de Dieu, dans les choses terre à terre. On se dit c'est terre à terre, mais oui, mais Dieu veut être associé à tout ce que nous faisons. Ce n'est pas terre à terre, il veut être associé. Et on se souvient de notre frère David qui priait avant chaque guerre, « Seigneur, je fais quoi ?» Avant chaque quand il y avait menace, « Je fais quoi ?» Et Dieu lui disait, tu fais ceci, tu fais cela, c'est cela. Quel que soit l'ennemi, l'adversaire, nous devons prier que Dieu soit avec nous et nous conduise. Même si ça paraît faible, il sait, que c'est lui seul qui peut faire la différence. Et finalement, nous devons vraiment faire attention les uns aux autres. Nous nous souvenons de l'épisode aussi d'un Corinthiens 5. Hein. Bon, on écoute d'abord la question, peut-être on lira un Corinthiens 5 mardi prochain. Qui nous parle de ce garçon-là qui a pris la femme de son père et l'apôtre Paul expliquait que mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc juste ce que va faire ce garçon-là, ça peut détruire l'œuvre de Dieu dans l'église. Même si vous tous, vous êtes de la bonne farine, mais un peu de levain, ça peut détruire. Vous laissez faire, en laissant faire, ça peut tout détruire. Oui, oui.
Oui, pasteur, c'est une question à demi hors sujet, mais comme je me la pose, je la pose. Dans Ézéchiel 16, le chapitre nous parle de Jérusalem. Dieu fait des reproches à Jérusalem et il la compare à une femme qui l'a soignée et puis qui finalement l'a trahi. Et le début dit ceci, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan et ton père était un Amoréen et ta mère une Éthienne. » Je ne comprends pas parce que le peuple d'Israël n'est pas originaire de Canaan par sa naissance.
Ah non, c'est la ville.
Il s'agit de la ville.
La ville même. Dieu a une relation avec le peuple et avec le lieu aussi. En fait, c'est le seul lieu sur la terre qui a une relation avec Dieu. Tous les autres endroits, c'est lié au fait que les humains sont déçus. Mais le seul lieu à qui Dieu s'adresse directement, c'est Jérusalem. Il y a quand même différence entre Jérusalem et même Israël, tout le territoire, et Jérusalem, ce n'est pas la même chose. Jérusalem, c'est particulier.
D'accord.
Il n'y a pas que dans ce passage, dans beaucoup d'autres passages. C'est vraiment Jérusalem direct avec le Seigneur. Voilà, donc nous revenons un tout petit peu mardi prochain sur cet épisode d'Aï pour citer 1 Corinthiens 5. Voilà, oui.
Et en fait, quand ils sont allés combattre contre le peuple d'Aï, ça sous-entend donc que Josué n'a pas prié, le Seigneur n'a pas cherché la face de Dieu par rapport à cette bataille. Et l'on peut considérer que s'il l'avait cherché, Dieu lui aurait dit par avance le problème de ce qu'il
voilà,
avait pris.
Voilà, s'ils avaient prié, s'ils avaient cherché la conduite du Seigneur, Dieu aurait dit qu'il y a un problème, réglé d'abord ça. Parce que quand ils l'ont fait, il a dit. Donc là, Josué a écouté les gens qui lui ont donné le conseil. Vous savez, dans toute chose, il faut connaître aussi l'ordre des choses. C'est Josué le conducteur. Et les gens vont, ils discutent entre eux, ils concluent qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Ils viennent à dire à Josué, c'est ça qu'on doit, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas à peine que tu fatigues le peuple. Lui, il suit. Je ne veux pas dire par là que celui qui a l'autorité ne peut pas suivre. Mais avant de suivre, lui doit parler toujours à Dieu. Voilà. Lui, on lui donne un conseil sage, surtout il se dit, oh, c'est vrai, 3000 personnes, 7000, ils ne sont pas beaucoup, les gens d'Aï. Oui, il suit. Et c'est ce qui arrive parfois, c'est ce qui est arrivé à Adam. La femme a parlé avec Satan, on vient lui dire, ben voilà la situation, toi aussi tu manges. Et il a mangé, mais les gens ont parlé à côté. Donc, c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui dois décider. Donc, ça doit venir de ta communion avec Dieu. Mais il y a un groupe de gens qui décident quelque chose, ils viennent te soumettre. Maintenant, toi, tu prends l'engagement à leur place, parce que c'est à toi de les conduire, mais c'est eux qui te conduisent. En tant que quelqu'un, a une autorité, que ce soit l'homme dans la maison, que ce soit les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Donc même quand les gens nous donnent des bons conseils, c'est bien. Mais d'abord, que Dieu puisse nous donner le feu vert. Et beaucoup de gens ont chuté comme ça, par des conseils, des gens qui ont discuté à côté. Et après, on vient te dire à toi, mais c'est toi l'autorité, les choses doivent venir par toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter, d'ailleurs, que Salomon dit que le mot conseil, ça aide. Mais, puisque le dernier mot te revient, tu as besoin de consulter Dieu d'abord pour dire, ben écoute, voilà, finalement, je suis ce que vous venez de dire. Ou bien, non, attention, Dieu a dit autrement. Ah, Josué n'a pas fait ça, parce que le conseil était tellement sage, clair et simple, quoi, selon l'intelligence humaine. Or, on ne doit pas conduire les choses selon l'intelligence humaine. Donc, faisons attention. Les gens peuvent nous parler. Nous ne devons pas être des orgueilleux pour refuser d'écouter ce que les autres disent. On doit être simple, mais n'oublions pas que la simplicité n'exclut pas l'autorité. Donc, on est simple, mais on doit suivre ce que... on doit se souvenir de la position que Dieu nous a donnée. Si Dieu nous a placés dans une position d'autorité, on doit fonctionner avec cette position-là, ne pas la mettre de côté sous prétexte que les conseils sont tellement bons et sages. Donc, il faut faire attention. Surtout quand quelque chose a été discuté ailleurs et on vient te l'imposer à toi l'autorité, faut être vigilant là-dessus et prier d'abord, quoi. Voilà, nous allons prier afin que Dieu nous aide à mettre en pratique tout ce que nous avons entendu là, notamment la solidarité entre enfants de Dieu. Du moment qu'on est ensemble, on ne doit pas mépriser l'autre en disant il est mauvais, il est dans le péché, et pensant que ça ne concerne que lui. Or, on est liés, on est dans le même corps. Nous ne devons pas tomber dans le piège des raisonnements faciles et dire, quand quelque chose est facile, on n'a plus besoin de prier, on n'a qu'à pratiquer, on y va. Attention, même faire la cuisine, Dieu peut nous inspirer. il peut nous inspirer dans tout. Donc on a besoin de lui dans tout. On n'a pas à dire, bon, ça, ce domaine-là, non. Et une autre leçon, c'est toujours prier le Seigneur pour tout, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides, comme on avait dit dans les passages d'avant, à obéir aux instructions simples. Même quand on a des grands projets avec toi, que nous ne puissions pas user de rationalité humaine en nous disant, comme le projet est trop grand, il faut un jeûne de 365 jours, ainsi de suite. Non, c'est vrai qu'on doit être sanctifié avant des grands projets, mais obéir à tes instructions pour bâtir ces projets et obéir à tes instructions dans la longueur. Ça peut prendre beaucoup de temps, l'obéissance, mais tes instructions sont toujours simples. Tu nous donnes jamais des instructions compliquées. C'est ce que nous avons lu un jour dans Deutéronome. Tu nous donnes toujours des instructions simples et c'est nous qui venons compliquer par la suite. C'est parce que nous les trouvons trop simples et nous ne voyons pas ce que ça va nous faire gagner directement. Et à cause de cela, nous les négligeons. Par exemple, négliger l'étude biblique parce qu'on ne voit pas directement ce qu'on gagne et malheureusement, on perd en formation, on perd en construction spirituelle, et ce qui va nous empêcher de faire de grandes choses. Ô Éternel, aide-nous à accepter les faibles instructions, les petites instructions, afin de faire de grands exploits plus tard. Aide-nous, Seigneur, à aimer notre frère qui est dans la difficulté, comme c'est écrit, que les forts supportent les faibles, que nous puissions pas nous dire « Ah, moi je suis ma route, je les laisse ». Non, je suis, c'est vrai, ma route, mais tout en faisant un effort pour ramener les autres à la route du Seigneur. Que ce soit ainsi notre fonctionnement, que nous puissions considérer que tu fonctionnes avec nous comme une armée et non pas comme les snipers, les tireurs d'élite, Seigneur, qui parfois œuvrent tout seuls, Seigneur. Nous sommes une armée et que nous puissions nous supporter les uns les autres et nous corriger les uns les autres afin que l'ennemi ne trouve aucune brèche au milieu de nous, Seigneur. Et nous venons prier en même temps pour tous ceux qui connaissent des temps difficiles dans la foi, dans la spiritualité, ou tous ceux qui ont encore des choses dans le cœur dont ils doivent se repentir. Amène-nous, Seigneur, à la repentance afin que ton peuple soit fort et uni face au combat à venir, Seigneur. Nous venons prier que tu nous préserves de l'orgueil humain qui tombe dans la facilité des raisonnements rationnels, évidents selon le cerveau humain, mais en réalité qui ne correspondent pas à ta façon de fonctionner, Seigneur. Que nous puissions prier, chercher ta face pour tout, même pour les choses élémentaires, Seigneur. Que ce soit qu'est-ce qu'on doit faire dans les études après le bac? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle option prendre après le brevet? Seigneur, tout ça, Seigneur, que nous puissions te consulter, prier, que tu nous conduises. Quand nous avons des sollicitations pour le travail, te demander quel choix. Parfois, il y a trois propositions de poste, Seigneur. Te demander toujours pour construire toujours les grands exploits à venir par ces faibles instructions. Ça paraît rien du tout, mais toi, tu construis tout. Avec toi, tout est une construction, Seigneur, que nous puissions saisir cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ton aide. Et aide-nous, comme nous l'avions dit par rapport à Jean-Baptiste, entre autres, à vivre par la foi, à travers le souvenir des exploits que tu as fait autrefois. Même si nous sommes en difficulté aujourd'hui, que le souvenir de tes exploits nous amène à espérer pour l'avenir. Les souvenirs qui sont inscrits dans ta parole et aussi dans nos propres vies et dans la vie des autres bien-aimés. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.
Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.